Bonjour à tous, vous écoutez Contre toute attente, le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Je suis Alexandre Mars et ensemble, nous allons à la rencontre de personnalités qui ont réussi, contre toute attente, à grimper les échelons, à s'imposer comme légitimes, voire même incontournables dans un monde où les places sont rares et les trajectoires souvent prédéfinies. Nous allons apprendre comment ces aventuriers ont réussi à donner un élan inattendu à leur existence malgré un chemin semé d'embûches. Et quels sont les dessous et les secrets de leur incroyable destin? Bienvenue, c'est Contre toute attente. À l'origine, il y a un geste immortel, la rame, la pagaie, qui s'enfonce dans l'eau qui la repousse pour avancer. Un geste pratiqué sur tous les continents par des millions de personnes depuis toujours. Un geste banal, à la portée de tous, mais dont la maîtrise parfaite est l'apanage d'une élite. À l'origine, il y a cela. L'homme, sa barque et la rivière. Vient ensuite tout le reste, la compétition, les règles, le travail, la concentration, les Jeux Olympiques et la gloire. Voilà mon invité, c'est cela. Ou plutôt, cela aurait dû être cela. Un champion d'une discipline olympique un peu obscure, un type qu'on imagine plutôt crapahuté près d'un torrent pyrénéen que fréquenter les arcanes politiques de l'olympisme mondial. J'accueille pour ce podcast l'homme qui a rendu les Jeux Olympiques à la France après de nombreux échecs, le président du comité Paris 2024, Tony Estanguet. Salut Tony.
Bonjour.
Bosseur, rigoureux, méticuleux, perfectionniste, tenace, charismatique, sont autant d'adjectifs qui reviennent souvent pour te décrire. Une question qui me brûle les lèvres. Tu as des défauts aussi?
J'en ai plein des défauts. Je suis têtu, je suis désordonné. Non, écoute, c'est très gentil, mais forcément, je crois qu'on a tous nos défauts et on apprend beaucoup avec aussi nos imperfections.
Non, c'est sûr. Donc, il faudrait que je demande certainement encore plus à Laetitia,
ouais, c'est ça.
Ta femme, je pense sûr qu'elle m'en donnerait quelques-uns d'autres. Dans une interview récente, tu dis que tu n'avais pas de prédisposition particulière pour le sport à l'école. J'en doute, mais ceci étant, le sport pour toi, c'est donc plus une histoire de travail que de talent ?
Oui, en tous les cas, je crois que rien ne me prédestinait à devenir champion olympique. Pour moi, les Jeux Olympiques, c'était à la télévision. Je regardais ce spectacle tous les 4 ans, je rêvais. Mais je me disais, c'est pas pour moi, j'ai aucune chance. J'étais pas le meilleur en sport à l'école, déjà dans mon école. Alors je me disais, comment est-ce que je peux un jour me retrouver au départ des Jeux Olympiques? Et puis, c'est vrai que j'ai eu l'impression finalement de croiser le chemin de bonnes personnes qui m'ont aidé à grandir, qui m'ont donné des bons repères. J'ai beaucoup travaillé parce que c'est vrai qu'il faut aussi faire la différence par soi-même de temps en temps. Mais j'ai l'impression d'avoir quasiment tout appris de ce que je suis aujourd'hui, de ce que je fais aujourd'hui. Et je me positionne plutôt à l'opposé du génie de celui qui a un don par rapport à d'autres. C'est pas ma conception aujourd'hui du sport de haut niveau.
Et donc, en parlant du travail, tu considères que sur le plan d'eau, tu étais à chaque fois le plus bosseur? Tu pensais que ce manque de talent potentiel que tu évoques...
Ouais, en fait, j'ai l'impression que on a tous nos différences et nos particularités et que les chemins de la réussite sont toujours différents. Et ne pas vouloir absolument se dire que si on ne ressemble pas à quelqu'un qui a déjà réussi, on n'a aucune chance. Et je crois que c'est ce que m'ont appris mes parents et encore une fois mes entraîneurs. Parce que souvent, quand on regarde la réussite, la performance de très haut niveau à la télévision ou sur un événement sportif, on a l'impression de ne pas ressembler à ces gens-là. Et je crois que ce qui m'a énormément aidé, c'est de relativiser les choses et d'accepter de me construire étape après étape, parce que souvent on me demande, mais comment vous faites pour gérer la pression au départ des Jeux Olympiques avec un tel stress, un tel enjeu? Mais en fait, on apprend à gérer ce genre de moment et on ne se retrouve pas propulsé au départ d'une finale olympique du jour au lendemain. Il s'est passé 20 ans où on est allé sur des compétitions départementales, locales, où on est tombé, on a appris à se relever, on a appris à gérer ses émotions, sa respiration. Il y a plein de techniques finalement qu'on nous apprend pour être capable de gérer son stress et de gérer ses émotions. Et c'est pour ça que c'est formidable le sport, parce qu'on peut vraiment s'épanouir, on peut vraiment grandir, ça peut mener très loin, mais ça peut aussi tout simplement apporter du bonheur et du plaisir dans son quotidien.
Tu racontes que tu as longtemps eu un complexe d'infériorité parce que le canoë ne fait pas partie des grandes disciplines sportives. Alors aujourd'hui, tu te trouves à la tête d'un projet qui est donc le COJO, le Comité des Jeux Olympiques, à 6 milliards d'euros. Alors, est-ce qu'il est toujours présent, ce complexe ?
En tous les cas, je pense que grâce à ce sport-là, j'ai cultivé une forme d'humilité. Parce que s'il y a bien une qualité qu'il faut conserver en canoë-kayak face aux éléments, à la force de la nature, c'est bien cette humilité de dire que il faudra toujours contourner les obstacles, il faudra toujours développer des stratégies et ne jamais lutter, parce que face aux éléments, vous perdez quasi systématiquement. Et aujourd'hui, c'est un peu ce que je réemploie dans mon quotidien professionnel. Je suis face à une immensité qui est le plus gros événement que la France et ce pays n'aient jamais organisé. Il y a des problèmes tous les jours, des obstacles tous les jours. On nous explique que ce n'est pas possible, qu'on ne va pas y arriver. Et en fait, quand on prend les sujets les uns après les autres, on essaie de débrancher les problèmes, de trouver des solutions, de contourner les problèmes. Et donc, je réemploie un peu cette caractéristique qui m'a guidé quand j'étais sportif de haut niveau, de rester à ma place, de rester humble, mais toujours très ambitieux. On peut être très ambitieux et humble à la fois.
Tu es donc natif de Pau, une ville où le club de basket l'Élan Béarnais et le club de rugby la Section Paloise sont des institutions. Tu n'as jamais été tenté par l'un de ces sports ?
Alors si, moi j'ai grandi effectivement dans cette ville où le basket et le rugby étaient les sports rois. J'ai pratiqué un peu le basket, j'adorais ce sport, c'était le moment de la NBA, la Dream Team aux Jeux de 92.
Ton équipe préférée c'était quoi à l'époque, américaine ? T'en avais une comme Kevin Déjà, c'était les Celtics.
C'était plutôt les Bulls, quoi. Le Michael Jordan, ouais. Le moment qui écrasait tout. Et donc, on avait tous le poster de Michael Jordan dans la chambre avec les chaussures qui allaient bien. Et donc, moi, j'ai grandi effectivement où tout le week-end, j'allais voir l'Élan Béarnais, le basket à Pau.
Plutôt basket que rugby.
Donc, plutôt basket dans un premier temps. Et après, quand j'ai grandi, je suis venu un peu au rugby parce que c'est vrai que j'ai aimé aussi cette écosystème, les sportifs, j'avais plus de facilité à communiquer avec les sportifs du rugby que dans les autres sports, donc je me suis intéressé au rugby dans un deuxième temps. Ouais.
Justement, parlant de sportifs, si tu devais être aujourd'hui un autre sportif français, tu serais qui ?
Ouais, celui aujourd'hui avec lequel j'ai le plus de à la fois de proximité et d'admiration, c'est Martin Fourcade. Parce que je trouve qu'on a plein de similitudes. Je suis assez fasciné par ce qu'il arrive malgré tout à mettre en œuvre, vu la difficulté de son sport, et à la fois techniquement, physiquement, mais aussi sur les conditions de pratique. C'est des petits sports qui ne sont pas bien aidés. Et il a réussi, je trouve, lui aussi, à trouver des voies de passage pour sortir du lot, pour se réinventer. Pas toujours dans la facilité, on l'a vu, hein, il y a eu aussi des moments plus difficiles dans sa carrière, mais un sportif qui reste toujours droit, qui est irréprochable dans son état d'esprit, pour moi c'est le vrai champion. Au-delà de la performance et de la médaille, c'est celui qui a des qualités humaines, d'ouverture, de dialogue, qui est curieux, qui s'intéresse à la société autour de lui. Il est actif dans un certain nombre de domaines. On sent pas le sportif complètement tourné vers lui-même et uniquement intéressé par sa propre performance. Donc ouais, je dirais plutôt Martin. Ouais.
Qui en effet a une humilité incroyable et puis c'est le français le plus médaillé
de l'histoire.
En plus, une personne exceptionnelle. L'eau, c'est ton élément, ça on l'a compris. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir peur dans l'eau ?
Oui. Alors, c'est vrai que dans ces sports-là, il y a une dimension que je redécouvre aujourd'hui en tant que papa, puisque je fais découvrir un peu ces sports nature à mes enfants. Et donc, dans ces sports nature, il y a une dimension d'engagement qui est importante, pour progresser, il faut aller un peu affronter l'élément et se mettre dans des situations où on ne maîtrise pas complètement. Et oui, j'ai eu des moments où je me suis retrouvé un petit peu bloqué sous l'eau, quelques secondes où on s'imagine le pire, ou plus tard en tant que compétiteur dans des rivières où on se retrouve parce qu'on est un peu sûr de nous au départ quand on embarque, et puis quand on est au milieu de la gorge, qu'on ne peut plus s'échapper, et qu'on est face à des éléments de plusieurs mètres de haut, avec des gros volumes d'eau, vous avez peur, quelque part survivre, en essayant de trouver des solutions pour sortir de là, de ce piège-là. Donc oui, il y a 2-3 fois dans ma vie où je me suis retrouvé dans des situations où je me suis demandé comment ça allait finir. Mais cette adrénaline-là, elle est aussi très forte, elle est très dangereuse parce qu'on a envie d'y regoûter. Il faut faire attention, effectivement. Il y a quelques sports qui sont, je pense, touchés par ces logiques-là, de vouloir aller toujours un cran plus loin et jusqu'à potentiellement l'accident. Donc il faut faire attention.
Surf aussi, c'est arrivé aussi quand
ouais,
t'as
le surf,
avec
le ski, ou ouais. Pareil, on se retrouve voilà, dans des domaines où potentiellement on ne maîtrise pas tout et on sent que la nature
sera toujours plus
peut nous embarquer. Quoi.
Tu parlais de tes enfants, donc tu es papa de 3 enfants. Quelle valeur vous essayez de leur inculquer avec Laetitia, ta femme? Est-ce que ça doit passer obligatoirement par l'exercice d'un sport?
Alors, je pense que je mentirais si je vous disais que c'est pas important pour moi. C'est forcément important pour moi. J'ai grandi grâce au sport et j'ai vraiment envie que mes enfants puissent s'épanouir aussi à travers la pratique d'un sport. Et donc oui, naturellement, on a un peu organisé les choses pour qu'ils aiment pratiquer le sport. On essaie en revanche de les préserver au maximum de la compétition, parce que ça me fait très peur aujourd'hui, qu'ils se sentent obligés de réussir en compétition et de reproduire finalement la carrière de leur père. Donc j'essaie de
leur oncle, de leur grand-père.
C'est ça, c'est... on est dans une famille où on a tous fait de la compétition à très bon niveau. Et...
Donc tu penses sincèrement que ça va sauter une génération?
Ce que j'essaie en tous les cas, c'est de m'obliger à leur inculquer une culture sportive assez polyvalente, qu'ils touchent un peu à tout, de retarder le moment où ils vont devoir se spécialiser s'ils veulent faire de la compétition. Et ça, je suis un peu ferme là-dessus, et c'est chouette. Voilà, je veux qu'ils fassent un peu de sport collectif, des sports d'intérieur, des sports en extérieur. Parce que je trouve que c'est ça la magie du sport aujourd'hui, c'est de se retrouver dans des univers complètement différents. Et j'ai vraiment envie qu'ils goûtent à ces différents plaisirs.
Oui. Donc là, il faudrait qu'on leur fasse passer un peu de temps avec un autre sportif de talent français, qui est Kevin Mayer, parce que là aussi,
ah ouais, lui, c'est le maître absolu de toutes les pratiques.
Et je pense que voilà, on ne peut battre absolument à rien.
Donc c'est
peut-être,
ça.
Peut-être en le mettant sur l'eau, mais malheureusement, je crois qu'il est même là, il est bon. Tu parles très souvent du rôle que ton frère a joué. Tu parlais tout à l'heure de Martin Fourcade, et c'est vrai que c'est un regard intéressant, parce que l'un et l'autre, vous aviez des grands frères champions avant vous, et il a toujours été donc un immense soutien. Et quel est-il de ton papa? Parce que c'est vrai qu'il a été quand même 3 fois vice-champion de France, comme toi, le temps que tu passes, et pour bien te connaître avec tes enfants, comment est justement son regard par rapport à ce que ton papa a eu avec toi?
C'est sûr que malgré tout, je pense qu'on essaie de reproduire un peu l'histoire. Et moi, mon père a joué ce rôle clé. C'est lui qui nous a transmis le virus, entre guillemets, d'être passionné complètement par ce sport. Il a lui aussi mis en place ce qu'il fallait pour qu'on s'amuse, pour qu'on soit vite en situation de réussite. Et du coup qu'on se retrouve absorbé dans cette dynamique incroyable dans le canoë-kayak. Et mon père a joué un rôle clé, il a, j'allais dire sacrifié, c'est sûrement un terme trop fort, mais en tous les cas, il a donné quasi tout son temps pour que ça fonctionne pour nous. Parce qu'il n'y a pas de secret dans le sport de haut niveau, si vous n'avez pas des bases solides, un entourage solide à votre disposition pour réussir, pour vous emmener, pour vous donner des clés, pour vous rassurer quand ça ne va pas. Et mon père a joué ce rôle-là, et aussi dans sa capacité, le moment venu, à s'effacer pour laisser la place à un entraîneur, à un système fédéral qui prend le relais. Mais notre père nous a vraiment emmenés très loin, déjà avec des solutions, et depuis tout jeune, quelque part, moi j'ai toujours eu un temps d'avance, et quand on est gamin, on adore ça, et donc du coup, pour moi, j'ai eu le rôle facile. Je suis le dernier d'une fratrie. Mon père avait déjà initié mes frères, qui se sont plus ou moins cassés les dents. Et moi, j'ai pris que des raccourcis, parce que mes grands frères étaient passés par là. Donc, j'ai hérité du bon matériel, j'ai hérité des bonnes techniques de préparation. Et donc, j'ai tout de suite pris beaucoup d'avance et j'ai eu le beau rôle et le rôle facile, entre guillemets.
C'est le succès de la famille Estanguet, en fait.
Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment la dynastie Estanguet. Ça a été une histoire de famille dingue où le papa a été l'initiateur de toute l'histoire. Et ensuite, les frères qui ont pris le relais. Moi, mon grand frère d'abord, qui a joué ce rôle-là parce que j'étais un peu en compétition avec le frère du milieu, ouais, on va dire. Et puis, quand le deuxième a arrêté sa carrière, il est lui aussi devenu mon entraîneur et à mon service pour réussir. Donc vraiment toute la famille, la maman qui jouait ce rôle un peu de temporiser, de calmer, de nous donner un autre aussi aperçu sur la vie et qu'on soit pas à temps plein à penser, manger, dormir, canoë, kayak. Mais du coup, c'est vrai que c'est vraiment une histoire de famille.
Et ce qui est intéressant par rapport à ton papa, c'est que lui, pour le coup, ses parents étaient agriculteurs. Donc là, lui aussi aurait pu être un contre-attente parce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas du tout prévu.
C'est ça, moi, qui m'impressionne plus. C'est le côté être capable de changer de voie comme il l'a fait. Effectivement, lui, voilà, famille très modeste, parents agriculteurs, qui ne connaissaient pas le sport, personne dans son entourage faisait du sport. Et puis à l'école, on se rend compte que physiquement, il a des qualités, donc il fait de l'athlétisme, il fait de la perche à un bon niveau. Et puis un jour, tard, très tard, vers 20 ans, il découvre le sport nature, parce que lui, forcément, fils d'agriculteur, le contact avec la nature était clé. Et la pratique sportive dans la nature, ben, ça a été la révélation. Donc le canoë-kayak, mais le surf, le ski, le vélo, tous ces sports-là deviennent pour lui vraiment sa priorité. Et il nous transmet, voilà, cette éducation sportive plutôt dans les sports de nature.
Je pense que c'est un parallèle intéressant avec ton papa, parce que c'est quelques dizaines d'années après, à peu près, ce que tu fais. Tu te réinventes comme il s'est réinventé. Tu fais quelque chose qui n'était certainement pas, ou tu n'étais pas prédestiné à diriger une entreprise aussi importante, aussi puissante. Et je pense que, une fois, c'est peut-être dans le sang et dans les gènes. Le Parisien, le journal, a fait le parallèle entre ton accession à la tête de Paris du 24 à 39 ans et celle d'Emmanuel Macron à la présidence de la République au même âge. Comment tu vis cette comparaison ?
Enfin, je pense qu'il n'y a pas de comparaison. Je peux pas du tout comparer la réussite du président de la République et ma réussite. Moi, je suis embarqué dans une formidable aventure. Ça reste du sport, ça reste un événement sportif qui, je l'espère, sera une belle réussite. Et on est en train de travailler très dur pour que cette réussite, elle puisse impacter la vie des Français, que les Français soient fiers de ce que leur pays est capable d'organiser au service aussi d'une nouvelle génération de territoires qui ont besoin aujourd'hui de la pratique du sport. Parce que moi, je pense que dans ce pays, le sport n'est pas utilisé dans tout son potentiel.
Mais comment tu l'expliques, ça ? Quand tu as travaillé là-dessus, est-ce que tu as trouvé une explication logique pour répondre à une solution ?
Moi, je pense que pendant trop longtemps, on a considéré le sport comme secondaire, comme quelque chose qui vient après, si on a le temps, si on a l'envie, mais qui a peu d'importance. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Il y a quand même une envie collective de reconnaître que le sport est une solution pour notre santé, que le sport est une solution pour notre éducation, notre modèle éducatif, pour une société plus inclusive, pour réussir à créer du lien entre la population, parce que on le voit bien, il y a peu aujourd'hui de domaines qui fédèrent autant que le sport. On l'a vu avec la Coupe du Monde de football l'année dernière ou en 98, c'est systématiquement des émotions collectives très rares, très fortes. Et on a envie que ça dure et on a envie aujourd'hui de passer un cap avec Paris 2024 pour démontrer l'utilité du sport au-delà des émotions. Parce qu'encore une fois, je crois que dans nos quotidiens, pratiquer le sport, c'est une forme de bien-être, c'est se préoccuper de sa santé, c'est se préoccuper encore une fois de son efficacité. Et aujourd'hui, le sport apprend à bien se connaître, apprend à respecter les autres, apprend à respecter notre environnement. C'est des messages qui sont tellement forts, mais qui sont appréhendés de manière positive. Et nous, on a envie vraiment, avec Paris 2024, de mettre en place des programmes pour démontrer tout ce que le sport peut apporter dans un pays comme la France.